When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 134, ici Richard Delhomme. Cela faisait un moment que l'on se tournait autour avec Clément. Un premier épisode loupé pour cause de mauvaise connexion en juillet, juste avant la RAF. Un abandon pour Clément et un rebond sur le Biking Man Pays Basque. Je pensais bien avoir rompu la malédiction. Et pourtant non. Car si Clément est très très fort à vélo, il a une lacune, terrible à mes yeux. Et comme beaucoup, je suis ébahi par la gentillesse, la simplicité et la maturité de Clément. Vous avez entendu les mots de Omar Di Felice. Ce gamin-là va faire très très mal à l'avenir. Et visiblement, sa petite sœur ne serait pas mal non plus. Et sans plus attendre, donc, Clément Clisson.
Normalement, de sœur, on discute un petit peu, et puis à un moment donné, je dis avec ma nouvelle stratégie, ok, c'est bon, t'es prêt, je vais lancer l'enregistrement. Bah là, vu ce que tu viens de me faire, j'ai tout de suite lancé l'enregistrement. Je vais pouvoir l'annoncer publiquement. Clément Clisson est nul avec un ordinateur. Voilà, sachez-le, c'est comme ça. Je suis désolé de l'annoncer publiquement, mais là, une demi-heure pour trouver un mot de passe, Clément, tu peux pas me faire ça, hein, c'est pas possible.
C'était pas terrible. C'était la date de naissance du patron, donc c'est.
Oh, et en plus, t'as oublié la date de naissance du patron.
Pas facile.
Bon, ouais, je sais pas. Bah, je pense que ouais, t'es un petit peu dans les. Tu vas avoir quelques soucis, je pense. Hein. Tant pis. Enfin, je note quand même que tu t'es assis dos à une enseigne dans le magasin. C'est Cube, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Oh, magnifique. Le gars, il est vraiment à bloc dès le début, quoi. Ça, c'est vraiment magnifique. Bon, Clément, on va pas tourner autour du pot. Moi, j'aimerais savoir un truc. Pourquoi, malgré tous tes succès, tu n'as pas plus la grosse tête?
Parce que... Je sais pas, je trouve ça c'est naturel. C'est naturel dans ma façon d'être de rester comme ça, assez humble.
Bon, ça suffit pas comme réponse.
Ouais, et puis je pense que aussi que ça me mérite. ça reste que du vélo. C'est complètement amateur, donc ça vaut pas de prendre le coup de. Ça vaut pas le coup de prendre la grosse tête. Hein. Il y a des choses, un pompier, quelque chose comme ça, il fait des actes bien plus forts que simplement faire du vélo.
Donc tu te fais pas griser par tous les messages que tu reçois à chacun de tes périples, que ça se finisse bien ou mal d'ailleurs, hein, que ce soit pendant la RAF, où ça s'est très bien passé jusqu'à un moment donné où ça s'est plus bien passé du tout. Ou pendant le dernier Biking Man, hein, tu te laisses pas griser par tout ça ou tu te dis la prochaine course, je vais les enfumer. Tu te dis pas
ça. Non, je suis pas du tout comme ça. Et puis d'ailleurs, la RAF de cette année m'a bien appris à être humble parce que ça peut très très vite basculer. Donc faut jamais s'enflammer. Jamais s'enflammer. Puis après, je retourne aussi vite. Par exemple, après la RAF 2020, je retourne très vite dans mon petit cocon, chez moi, la campagne, bien tranquille. Donc, je m'emballe pas.
Donc t'as pas le temps de te faire monter le bourrichon par tout un environnement. Ouais, Clément, t'es le plus beau, t'es le meilleur, t'es tellement sexy. Il n'y a pas de ça chez toi, il n'y a pas de ça dans le Poitou.
Non, non, pas du tout.
C'est pas l'ambiance.
Non.
Et ça te manque ?
Non, 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 j'aime bien comme ça, avoir un petit effet de gloire bah, sur le moment, ça fait toujours plaisir. Avec quelques retombées, mais j'aime bien aussi être calme pendant longtemps. Ouais.
J'aimerais bien savoir aussi, quand tu termines une épreuve, bien ou mal, hein, qu'est-ce que tu fais ? Tu retournes, tu t'affiches ton dossard et tu l'encadres et tu l'affiches dans ton salon ou tu l'accroches dans les toilettes et tu mets des photos de l'épreuve pendant 6 mois après sur les réseaux sociaux ou tu passes rapidement à autre chose ?
Non, bah, sur les réseaux sociaux, ce que je fais, généralement, je partage, on va dire, quelques jours après les quelques photos. Et puis peut-être ouais quelques mois après une ou deux photos par-ci par-là mais sans plus. Et après pour le dossard tout ça bon c'est avec mes affaires de vélo au milieu des sacoches, au milieu des vêtements. Enfin,
ça te sert à nettoyer les sacoches et le vélo si vraiment voilà. Il y a un problème ou à te moucher quand t'as que ça quoi.
Pas tout à fait mais ouais je les expose pas non plus.
Ouais donc tu tournes la page assez vite finalement.
Bah oui, ouais, c'est. Bah, faut, de toute façon, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas rester sur un succès. Et puis, sur un succès ou une défaite, d'ailleurs, c'est encore pire de rester sur une défaite. Ouais, donc, faut vite passer à autre chose. Et puis, il y a tellement de choses à faire. Donc, on va dire, faut pas perdre trop de temps.
Tu préfères échouer ou réussir ?
Bah, réussir.
Pourquoi ?
Forcément, ouais. Parce que c'est. Si tu t'entraînes toute l'année et que t'échoues et que t'es content d'avoir échoué, ouais, y a un truc qui cloche. Ouais. C'est plus sympa de réussir mentalement, tout ça, ça fait du bien. Et puis, bah, c'est l'objectif hein, de s'entraîner, de faire des sacrifices pour réussir.
Qu'est-ce que t'apprends le plus d'une victoire ou d'un échec ? T'as plus appris de la RAF ou du Biking Man cette année ?
De la RAF, très clairement. Très clairement. Ouais.
Ah, t'as appris quoi alors ? Qu'il fallait dormir ? Et qu'il fallait se méfier des quadragénaires italiens ?
Voilà. Ouais, qu'il fallait dormir, manger, enfin, gérer aussi les grosses chaleurs. Enfin, il y a plein de points sur lesquels, j'ai pas réussi à être au niveau que j'espérais. Donc, c'est. Ouais, là, j'ai beaucoup appris là-dessus.
Alors, je vais en profiter pour saluer Monique de Châtellerault. Je pense que tu la connais d'ailleurs.
Ouais, Monique Recasens.
Exactement, j'étais pas sûr de la bonne prononciation. Recasens ?
Oui.
Bon, d'accord. Donc, elle m'avait dit, je suis content qu'il se soit arrêté avant qu'il y ait un problème. Ça veut dire que quand même, tu étais relativement lucide, tu n'étais pas complètement à bloc sur la RAF. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté ?
Bah, en fait, j'avais vraiment la tête qui tournait. Et si tu veux, c'est comme si j'étais sur un vélo qui faisait 4-5 mètres de haut. Et j'avais des gros vertiges. Et ouais, j'ai eu quelques frayeurs avec notamment un camion que j'ai fait un gros écart et frôlé de près le camion. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur pour que je dise stop.
Tu t'es fait peur ?
Ouais.
Ah oui, ça t'est arrivé,
j'étais peur. Ouais. Ouais, j'ai eu peur, j'ai pleuré aussi sur le moment parce que j'ai compris que j'abandonnais, donc c'est dur. Mais après, quelques heures après, c'est passé. Ouais, c'était déjà bien passé.
Pourquoi t'as pleuré ?
Bah, parce que j'avais pas envie de. Enfin, j'avais pas envie d'abandonner. Ouais, et puis bah, c'est tous les entraînements faits avant. Puis je pensais aussi à mes parents, enfin, surtout à ma mère qui est malade. Et puis moi, je me dis, bah, j'abandonne juste pour ça, alors qu'elle se bat pour bien plus grave. Donc ouais, ça fait toujours un petit peu. Ouais, ça fait mal sur le moment. Mais moi, je relativise très très vite. Et puis je suis passé à autre chose très rapidement. En fait, si tu veux. Pour éclaircir un petit peu, il y avait Omar sur la Race Across France qui était, on va dire, une quarantaine de kilomètres derrière moi. Donc ça, c'était au bout du 3 ou 4e jour, le 3e jour. Et c'était dans les plaines, vers Blois et tout ça. Et arrivé à Blois, je me suis arrêté dans. Jusque-là, tout allait bien. Je me suis arrêté dans une petite boulangerie et j'ai mangé un hamburger. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui allait. Donc je ne sais pas si c'est le fait d'avoir pris un coup de froid parce qu'il avait plu toute la matinée, s'il y avait quelque chose dans le hamburger ou si c'est. Si c'est vraiment un ensemble, en fait, manque de sommeil, manque de nourriture, si c'est vraiment la fatigue globale, parce qu'on avait vraiment bataillé pendant plusieurs jours bah, avec tous les concurrents. Et toute l'après-midi, ça s'est empiré, empiré, vraiment des gros vertiges. Et du coup, le soir, j'ai décidé de m'arrêter dans un petit kebab. C'était le seul truc d'ouvert. Et du coup, j'ai mangé un kebab, il y avait une petite pizza aussi, et j'ai dormi pendant 5 heures, donc une grosse nuit quoi, à ce moment-là. Et le lendemain matin, c'était pareil. Pareil, j'avais toujours les mêmes vertiges. Et donc, j'ai continué à rouler un petit peu, mais je zigzaguais, j'avançais vraiment à rien. Ouais, j'ai grillé un stop sans m'en rendre compte. Et après, il y a un camion où j'ai venu frôler, et puis bah, c'est là où j'ai décidé d'arrêter. Et puis, du coup, je me suis arrêté un petit peu plus loin, dans une ville, et je commençais à vider mes poches, mais vraiment en mode enfin, un peu loser et tout, dans une poubelle sur le bord d'une station essence. Et puis là, je vois Arnaud Manzanini, qui est donc le directeur de l'épreuve, qui arrive avec son fils et puis pour prendre quelques photos tout ça et puis ouais là c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'abandonner et en fait après je me suis retrouvé ouais une ou 2 heures après je me suis posé dans un ouais, on va dire dans un petit champ après avoir fait des courses dans une supérette puis là j'ai passé l'après-midi à ouais vraiment faire un vide dans ma tête enfin j'ai pas pleuré je sais pas j'étais. C'était vraiment une sensation hyper étrange de solitude. Et ouais, j'étais tout seul dans un champ à manger enfin, j'avais acheté un pot de Nutella. Enfin, j'étais vraiment ouais, une mini déprime, mais juste sur le moment. Et là, ouais, c'était vraiment très spécial comme sensation. J'ai été faire un test PCR, parce enfin, voilà, on ne sait jamais. Je savais pas du tout et je sais pas du tout encore pourquoi j'ai eu de tels vertiges. J'ai pas la raison exacte, même si j'ai quelques idées. Et donc voilà, j'ai fait un test PCR qui était négatif et puis bah, après mes parents sont venus me chercher.
Tu t'es senti bien après combien de temps?
Alors j'ai eu encore quelques vertiges les quelques jours après, pendant 3-4 jours. Quand je restais debout trop longtemps, ouais, je tanguais un petit peu. Et après, j'ai fait une dizaine de jours sans vélo. Et puis, ça repart. J'avais envie de faire de nouveau du vélo. J'avais déjà, en fait, au bout des 3-4 jours là, qui sont passés, j'ai déjà en tête de faire de nouveaux défis, enfin, de me trouver un truc pour bien finir l'année et puis pour pas rester là-dessus.
C'est quoi les idées que tu as en tête pour expliquer ces vertiges?
Ouais, je pense le burger ouais, que j'ai mangé, je pense que ça peut être une bonne piste parce que c'était pile poil après ça. Avant Blois, j'avais pas fléchi. Ouais. Je pense que ça peut être une piste sérieuse. Après, je sais pas, enfin, j'ai pas les connaissances pour savoir si ça peut durer comme ça, une intoxication, ça a duré plusieurs heures. Et avec l'effort, ouais, ça. Ouais, et puis encore aussi fragilisé, hein. Perdre quelques kilos, le sommeil en moins. Donc, ouais, je pense que c'est peut-être la piste la plus sérieuse là-dessus.
Et juste avant ça, tu avais sur les donc 3 jours et demi, disons, tu avais dormi combien de temps au total?
J'avais dormi, ouais, 10, non, même pas 6 heures, ouais, 6 heures et demie, un truc comme ça, avant de dormir les 5 heures. Alors que l'année dernière, à la sortie des Alpes, j'ai dormi quasiment. Ouais, j'ai dormi 9 heures. Et cette année, j'ai dormi que 5 heures. Donc, ouais, ça cogne un petit peu avec une première journée très difficile où j'ai quasiment rien mangé dû à la chaleur. J'ai fait une très très bonne deuxième journée. J'ai rarement pris autant de plaisir sur le vélo. Si, en fait, dans l'année, tu peux faire peut-être 300 sorties dans l'année. Et ouais, c'est peut-être dans le top 3 au niveau des sensations et du plaisir. Donc là, c'est incroyable comment ça change du jour au lendemain. Donc ça fait vraiment un jour très mauvais. Le deuxième, c'était excellent. Le troisième, c'était ouais, la grosse bagarre avec Omar. On était à une dizaine de kilomètres à peine toute la journée. Et puis c'est dans le quatrième où j'ai complètement flanché.
T'as entendu l'explication de Omar au moment
Ouais.
où t'as entendu, t'en penses quoi toi?
Bah c'est ouais,
Parce que là, tu viens de me donner ta version de l'intérieur et Lily, c'est peut-être pas que t'as mangé un hamburger
Non,
foiré.
non. Ouais.
Et la version Omar, toi, tu la vis comment? Cette impression qui t'a mis la pression, que il t'a vu partir sans s'arrêter, que lui, il a pris le temps, un petit peu en vieux renard finalement.
Ouais, c'est peut-être cette version. Après, là, il n'avait pas le fait du burger que j'ai pu manger, donc ça change pas mal la donne. Mais c'est vrai que la pression qu'il met, ouais, c'est assez fou. Ouais.
Ça veut dire quoi? Parce que nous, de l'extérieur, on ne se rend pas compte de ça. Mais toi, tu l'as ressenti comment ça se matérialise, comment la pression de Omar?
En fait, tout simplement, c'est que il roule vraiment fort. Et en fait, t'as pas envie de lâcher, donc tu t'arrêtes pas à prendre de l'eau, tu t'arrêtes pas à prendre à manger. Et ouais, c'est pas possible de faire 500 bornes par jour en s'arrêtant limite qu'une fois dans une boulangerie, hop, prendre vite fait ce qu'il y a. Ouais, non, c'est très dur. Et ouais, c'est une espèce ouais, de pression un petit peu psychologique. Parce qu'en fait, à la sortie des Alpes, on s'est retrouvé dans un col, je crois que c'est le col du chat, quelque chose comme ça. Et ouais, on montait progressivement le plus fort possible l'un à l'autre. On était quasiment côte à côte. Et au sommet, il m'a mis ouais, une bonne mine. Il m'a mis une bonne attaque. Et en fait, j'ai mis ouais, pas 100 km à revenir sur lui, mais pas loin. Ouais. Et là, ouais, on a imprimé on va dire un gros tempo. Après, on s'est retrouvés. Puis je me suis arrêté quand je suis revenu sur lui. J'en ai profité pour m'arrêter dans une petite boulangerie, mais vraiment rapidement. Et puis après, toute la journée, on était ouais, 7-8 km l'un de l'autre. Donc c'est vraiment proche. Et j'ai pu revenir sur lui après en fin de journée. Et ouais, la pression, ouais, c'est particulier.
Est-ce que tu t'étais mis pas mal la pression cette année, toi, pour remettre finalement ton titre en jeu? Ou est-ce que tu es
Ouais.
arrivé totalement décontracté du slip?
Non, 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 je m'étais mis ouais, trop de pression en fait. Et puis je partais ouais, avec l'idée peut-être de regarder un petit peu trop le chronomètre. Ouais, je visais, on va dire, pour être clair, ouais, dans ma préparation, je visais clairement faire encore un meilleur temps. Je pense que ça m'a induit en erreur. Et après, une fois sur la course, en fait, j'ai fait ne cesse, j'ai en permanence changé de stratégie. Une fois, j'étais concentré sur moi-même, après sur les concurrents, même sur les concurrents qui étaient partis, je sais pas, Omar, il a dû partir 40 minutes avant moi, enfin. Je faisais que de changer ma vision ouais, des choses. Et ouais, là, c'était une erreur que je reconnais et puis que j'essaye de maîtriser là maintenant. Mais je le savais, mais c'est une fois lancé dans la course, tu te rends pas tout le temps compte. Et ouais, en fait, ouais, j'étais plus concentré sur mon propre effort, alors qu'à la base, c'est vraiment que ça qu'il faut regarder.
Quand on s'est parlé 2 semaines avant le départ ou quelques jours avant le départ, tu m'avais dit justement que tu avais plusieurs stratégies en tête et tu voulais les garder secrètes plus ou moins. C'était quoi alors ces stratégies?
Alors, vraiment, la stratégie pour faire ouais, un nouveau chrono, ouais,
Ah,
je
tu m'avais
t'avais
vendu un peu la
parlé
mèche, ouais.
ouais, en fait, de dormir 1 heure et demie par nuit et après de faire de me laisser un bonus de 2 micro-siestes de 15 minutes, soit pour finir la nuit, pour passer au niveau du matin, parce que j'ai toujours un petit peu de mal quand le soleil se lève, ou alors pour faire une petite sieste dans l'après-midi. Et ouais, je me suis rendu compte que ouais, c'est très dur à tenir. Enfin, pour moi, pour l'instant, ouais, je ne pense pas être capable de tenir ce rythme-là. En tout cas, sur 5 jours. Voilà, c'était peut-être un petit peu trop ambitieux, mais bon, ça m'a appris, ça m'a remis en place.
Ça t'a remis les pieds sur terre.
Ouais.
Ah, t'es un petit peu enflammé quand même alors.
Bah ouais, je m'étais, je pense, un petit peu enflammé là-dessus, ouais.
Mais c'est
Et
important.
après.
C'est bien aussi de s'enflammer des fois, parce que si on met pas la barre haute, bah on risque pas de se tromper. Si tu avais fait la même chose que d'habitude et que tu sans aucune prise de risque, t'aurais pas autant appris.
Voilà, c'est ça. Et puis après, je me dis que dans les années à venir, les courses commencent à être vraiment très très serrées au niveau du chrono final. Donc je me dis, ouais, faut essayer d'apprendre un maximum et puis de prendre des risques aussi pour faire des meilleurs temps possibles.
Comment tu t'es retrouvé sur le Biking Man? Après, j'ai cru comprendre que tu avais oublié que tu étais inscrit.
Non, en fait, je m'étais inscrit sur la liste d'attente. Je sais plus, c'était en début d'année. En fait, pour recevoir des notifications comme quoi il y aurait des places qui se seraient libérées. Et en fait, ils ont envoyé le mail. Je sais plus. Ouais, c'était le jeudi. Le jeudi, alors que le départ était le lundi matin. Et du coup, j'ai demandé. Je me suis dit, allez, sur un coup de folie, j'ai demandé à mon responsable le vendredi, puis il m'a accordé les jours nécessaires. J'ai quand même travaillé le vendredi, le samedi, et je suis parti en voiture le dimanche matin. Ouais, assez tôt. Et, ouais, ça s'est fait très rapidement. C'était pas du tout prévu. Mais c'était un chouette moment. Ouais. Et c'était, en fait, c'est parce que je recherchais aussi quelque chose pour rebondir pour la fin d'année. J'ai eu plusieurs idées en tête et ouais, je voyais pas de mail qui arrivait, donc et puis quand j'ai vu ce mail qui est venu, ouais, j'ai pas trop hésité à y aller.
Bah, puis d'une certaine manière, ça t'a obligé à y aller comme ça, presque sur un coup de tête. Donc, à pas réfléchir, à pas te mettre la pression et à faire, le faire spontanément comme tu sais faire finalement.
Voilà, c'est
Tu
ça.
fous ton vélo dans la bagnole, un cuissard et hop, une paire de sockets, et c'est parti. Et du coup, t'avais pas la pression du tout là-bas.
Non, j'avais pas la pression et tu vois, j'ai pris le départ clairement avec la peur de l'abandon. Donc je me suis dit vraiment, sois prudent, dors quand même convenable, ouais, dors bien pour aller au bout. Déjà, le but là vraiment c'était d'aller au bout avant de faire ouais, la bagarre un petit peu. C'était surtout ça, de se rassurer, de tester quelques nouvelles choses, mais ouais, surtout de prendre du plaisir pour finir l'année sur une bonne note.
Donc même toi, tu avais quand même envie de te prouver à un moment donné que tu étais capable de finir aussi. Même toi, tu as eu à un moment donné le doute, est-ce que je suis encore capable de finir ce genre de truc?
Ah bah oui, ça met toujours un petit doute, hein, un abandon, ça laisse toujours quelques doutes. Et puis surtout, moi, je suis pas quelqu'un d'hyper confiant, on va dire naturellement. Donc ouais, c'était important pour moi de le faire, ce Biking Man.
À quel moment tu t'es dit pendant la course, bon, là, ok, c'est bon, on peut envoyer un petit peu plus de watts? Quand Laurent Brochette t'a abandonné, peut-être, parce que tu savais que tu pouvais gagner peinard?
Non, on va dire ouais, c'était vraiment dans la deuxième nuit. Si tu veux, j'ai vraiment géré la première journée. J'ai dormi 3 heures à peine au bout de 20 heures de vélo, un truc comme ça. Donc, j'ai vraiment pas trop poussé la première journée. J'ai dormi 3 heures. J'ai fait une deuxième très bonne journée, enfin, au niveau des sensations, de la gestion. Enfin, j'étais vraiment concentré sur moi-même. Je regardais pas le classement, pour le coup. Et après, c'est dans la nuit, ouais, où c'était un petit peu plus la bagarre avec Laurent. Donc, voilà, c'était sympa aussi, mais il avait quand même une bonne longueur d'avance. Il avait 2 heures. C'est prendre 2 heures sur le remboursette en 300 bornes, bah c'est pas simple, quoi.
Ouais, il faut se lever tôt quand même.
Voilà.
Donc tu lui as mis un petit peu la pression, t'as retourné la leçon de Omar et tu l'as mise un petit peu sur Laurent, ou t'as fait ton truc cette fois-ci, ou est-ce que tu t'es concentré sur Laurent?
Non, à partir de la deuxième nuit, ouais, je m'étais beaucoup plus concentré sur Laurent. Ouais. Plus concentré sur Laurent. En prenant, ouais, parce que la deuxième nuit, après, oui, c'était vraiment tendu. Là. Il y avait vraiment des gros pourcentages. Il y avait aussi du brouillard la nuit. Et après, ouais, c'était une sorte de pression que je lui mettais. Enfin, il n'avait pas trop le droit à l'erreur dans ces conditions-là. Et puis après, au matin, ouais, j'ai essayé d'accélérer encore et encore. Mais je voyais que, honnêtement, à la pédale, je reprenais rien. J'avais le tracker fixé sur lui au niveau du GPS, mais je voyais que je reprenais rien à la pédale. Et en fait, tout s'est joué finalement dans la gestion du sommeil à la fin.
C'est l'avenir, ça, pour toi? C'est le dénouement futur des épreuves. Ça se jouera entre guillemets de moins en moins à la pédale, où les niveaux vont être de plus en plus serrés, mais que ce sont les temps d'arrêt et les temps d'arrêt globaux, nourriture et sommeil, qui vont faire la différence.
Bah oui, c'est sûr, ouais. C'est sûr, ça va être le sommeil, donc ça, c'est quelque chose, ouais, à travailler bien pour les années à venir. Puis après aussi, en termes de nourriture, de repérage, ça va être peut-être falloir passer plus de temps derrière l'ordinateur à repérer les boulangeries, tout ça, les cimetières pour l'eau, analyser aussi le terrain. Mais bon, ça peut être sympa. C'est pour ça aussi que j'aime cette discipline, c'est qu'il n'y a pas que le physique qui compte. Ouais. Il y a énormément de choses en dehors. Puis d'ailleurs, je pense, là, je commence déjà à travailler quelques points là, pendant l'hiver pour préparer la saison prochaine. Donc, travailler sur l'optimisation, en fait, des sacoches, la disposition au niveau du maillot. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de nouveautés à apporter. Et ouais, on peut parler, ouais, que ça soit un petit peu des gains marginaux, par exemple placer une sacoche à tel endroit ou tel endroit. Mais bon, quand les courses vont se jouer à 30 minutes, une demi-heure d'écart sur 5-6 jours, ouais, ça peut avoir très très vite son importance.
Donc tu vas modifier quoi sur ton équipement, finalement? Qu'est-ce qui semble te pénaliser? Parce que à la pédale, eh ben, tu restes parmi les meilleurs, au niveau d'un Omar, d'un Sofiane ou d'un Ulrich. Qu'est-ce qui va faire la différence selon toi, malgré que tu aies déjà un bon vélo, que tes sacoches sont pas mal, peut-être un poil lourdes? C'est un truc sur lequel tu vas bosser?
Bah alors, oui, sur la disposition un petit peu des sacoches. Enfin, je suis en train de tester, ouais, quelques nouveautés pour, en fait, tout simplement pour mettre un maximum de nourriture. Quand le terrain est, ouais, un petit peu plus plat en haute montagne, c'est un petit peu différent parce qu'il faut faire attention au poids. Ouais. Mais dans les terrains plats, l'idée, ouais, c'est faire un arrêt, je sais pas, boulangerie ou supérette le matin, et de ne pas s'arrêter de la journée ensuite. Donc oui. Là, oui, la disposition des sacoches est importante. Puis après, oui, au niveau du textile, je pense que c'est... Là, je suis en train de travailler un petit peu dessus, mais développer, par exemple, un maillot, comme on voit en ultra-trail, avec un peu plus de poches et tout ça, pour pouvoir stocker.
Ouais, les cuissards avec les petites poches sur les côtés, avec les petits filets pour mettre une barre de céréales, ça ne suffit pas.
Ouais, c'est un déjà bon un plus. Hein. C'est ouais, déjà un, ça, début, c'est déjà un bon début.
Il n'y a pas beaucoup de marques qui les proposent. Hein. ma connaissance, deux. Il y en a certainement d'autres, mais à ma connaissance, j'en vois deux. Et c'est quand même pas beaucoup. Et souvent, souvent, il n'y a pas. Enfin, la marque à laquelle je pense a un modèle, mais le cuissard n'est pas hyper adapté aux longues distances. Donc, c'est plutôt un truc trail, gravel décontracté du zoo. Décontracté. Et c'est pas un truc pour aller rouler des heures et des heures. Donc, tu vas gagner d'un côté avec les poches, mais tu vas finir avec le confort. Donc, c'est pas forcément une bonne chose.
Ah ouais, et puis. Ouais, bah oui, c'est. Ça, j'ai pas encore regardé ça pour un cuissard avec les poches. Ouais, c'était surtout sur le maillot. C'était aussi, surtout sur le maillot. Ouais.
Bah, tu vas rajouter quoi, des poches sur le dessus ou même la semaine dernière, j'ai eu une révélation, il y a deux semaines. Pourquoi ne pas emmener, tu sais, les comment ça s'appelle, bon, en anglais c'est bladder, mais les poches souples qu'on voit en ultra trail qui se mettent sur les bretelles ici. Pourquoi on n'en emmènerait pas?
Ouais, c'est exactement ça, ouais.
Plutôt que de se contenter des bidons rigides du cyclisme traditionnel, est-ce qu'on pourrait pas innover un petit peu de ce côté-là?
Ouais, c'est quelque chose auquel je pensais. Et aussi, j'ai retenu une idée intéressante là, de Clémence. Tu as fait une interview après la RAF. Je crois qu'elle avait une espèce de flasque au niveau dans ses sacoches. Et en fait, dans les régions où il n'y avait pas trop d'eau, ou alors quand il faisait chaud, elle remplissait cette flasque en plus des autres bidons. Et puis en fait, quand il n'y a pas d'eau dedans, ça prend très peu de place. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant aussi.
Ouais, elle a plein d'idées. Mais en plus, cette flasque, elle l'utilise toute l'année pour mettre des alcools divers. Donc, surtout au travail, parce qu'elle boit au travail, vu qu'elle est infirmière. Elle boit pas mal, ça, elle me l'a confié. Elle m'a surtout dit de ne pas le répéter, mais bon. Voilà, c'est comme pour l'informatique, hein. Débrouillez-vous avec vos employeurs. Si on revenait un petit peu sur ta méthode d'entraînement très très particulière, tu fais 80 km par jour et le week-end tu fais quoi?
Alors 80, oui, ça dépend. C'est quand je fais du vélo taf, c'est plutôt en été, un petit peu moins en hiver parce que ça use la nuit, tout ça, avec le froid. Ouais. Et après, ouais, comme type d'entraînement, surtout des choses assez classiques. Hein. Plutôt, on va dire, du fractionné l'hiver, parce que je fais plutôt des sorties courtes, donc il n'y a pas trop de fatigue de créer, donc c'est plutôt de fractionner l'hiver. Et après, quand vient le printemps, les distances s'allongent, plutôt des exercices en force, de 7-8 minutes, de la puissance, un peu de vélocité. Ouais, je fais vraiment de tout pour être le plus polyvalent possible. Et donc, c'est des sorties courtes, ouais, maximum 1h30 la semaine. Et plusieurs fois 1h30, peut-être 5-6 sorties d'une heure et demie. Et après, ouais, une grosse sortie le week-end. Puis après, il y a un entraînement vraiment un petit peu typique que j'aime bien. C'est partir le samedi soir. Le samedi soir, après le boulot, après une bonne semaine de travail. Et de rouler toute la nuit et puis rejoindre les copains le dimanche matin. Ça, ouais, ça fait mal.
Celle-là, elle fait mal. Tu l'as fait, tu l'as fait régulièrement ou tu te la mets vraiment par petites touches ou tu l'as fait très régulièrement, celle-là?
Non, je l'ai plus fait l'année dernière que cette année. Mais c'est surtout... j'ai beaucoup plus fait l'année dernière. Après, c'est différent. L'année dernière, j'avais que la RAF comme objectif. Cette année, j'ai eu le Biking Man au mois de mai. Donc, ça chamboule un petit peu. Mais ouais, une fois de temps en temps, ouais. Une fois par mois, c'est par mois ou tous les deux mois, ouais, c'est pas mal.
Une fois par mois ou tous les deux mois, ouais.
Ouais.
Ouais, pas plus.
Non, 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 ça.
Ça fait trop mal.
Ça use.
Ouais, ça use. Ça use vraiment.
Ouais.
Est-ce que tu souscris à... Attends, parce que du coup, il y a un déménagement à côté de moi. Est-ce que tu souscris justement, bon, je suppose que non, mais bon, j'ai envie d'avoir ton opinion là-dessus, à cette idée que comme c'est de l'endurance, eh ben, il n'y a pas besoin de faire de force, de fractionner, ce genre de truc, et qu'il y a juste à emmancher les kilomètres.
Ah non, non, pas du tout, parce que je pense que si je ferais que des kilomètres sans intensité... Ouais, j'aurais pris, je pense, assez cher pour essayer de suivre Omar dans la troisième journée. Ouais. Puis c'est toujours important quand tu as des gros pourcentages d'avoir fait un petit peu de fractionné, de force pour être capable de relancer ou de, Par exemple, tu as un virage à 15%, ouais, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de force.
Un petit peu de réserve quand même.
Ouais, c'est ça.
Pour mettre un coup de rein.
Puis même, enfin, je sais pas, ce serait. Je dis peut-être ça parce que je suis jeune.
Mais on voit la dame dans la caméra derrière. Elle est venue récupérer les trucs à vendre. Vas-y, c'est bon.
Oui, je dis peut-être ça parce que je suis jeune, mais ouais, faire que des entraînements d'endurance longs et tout ça, ouais, c'est long. Il faut mieux trouver des petits objectifs à chaque séance. C'est pas mal.
Pourquoi des petits objectifs? Qu'est-ce que ça changerait si tu faisais que de l'endurance? Ce serait chiant.
Ouais, et puis ça motive à chaque séance. Ouais, se dire, bah, allez hop, aujourd'hui je fais de la vélocité, et puis demain je fais de la puissance, et ça varie, ouais. C'est beaucoup moins monotone.
Tu varies un petit peu les pratiques vélo dans l'année? Ou là, disons, avec l'hiver, un peu de VTT, un peu de gravel, hein, ou un peu de pignon fixe, ou un peu de home trainer, enfin, toute la variété de pratiques, de types de pratiques que l'on a devant nous maintenant?
Ouais, l'hiver, j'essaye de varier. Là, j'ai fait une petite rando VTT, j'ai essayé d'en faire quelques-unes. Un petit peu de gravel aussi, d'un trainer, parce que c'est sympa, on peut faire des trucs hyper qualitatifs et en peu de temps. Et après, au printemps, ouais, à l'été, ouais, beaucoup de route. Quasiment que de la route. Et même pas beaucoup de gravel. Ouais.
Quoi?
Mais ça va venir. J'attends un petit,
ça y
petit vélo.
Alors tu vas, ouais, il y a pénurie, donc même toi, t'arrives pas à avoir un vélo à Poitiers, donc non, t'es à Poitiers, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Ouais. Il y a pénurie, donc.
J'attends un petit vélo et puis ça va être un Orbea. Pareil, j'ai eu.
Le Terra.
Ouais. Le Terra, un nouveau modèle. Et puis, ouais, j'aimerais bien me lancer un petit objectif en gravel, peut-être pas sans trop chercher la performance, mais pour fin 2022, pour découvrir, faire quelque chose de sympa.
Ah, mais sur la ouais. Badlands, par exemple, un truc comme ça.
Ouais, c'est vrai. C'est vraiment le truc qui me tente le plus. Bah, les images sont folles.
C'est dingue. Hein.
Ouais.
Mais ça m'a émoustillé. Cette semaine, on m'a parlé de la Desertus Baicus. Voilà, elle se reconnaîtra. Hein. Et pareil, ça a l'air givré comme truc. 1200 km à travers les déserts de Goraf, tout ça, à travers l'Espagne. Ça a l'air. C'est incroyable.
Ouais. Ouais, y a des très très belles courses qui se font.
Ouais. Ouais. Quand tu fais une épreuve d'ultra, c'est quoi le. Quel est le moment que tu préfères?
C'est dur de choisir entre les boulangeries et le lever de soleil, ouais.
Parce que... bon alors, qu'est-ce qui différencie la boulangère du lever de soleil? Qu'est-ce que tu trouves dans le lever de soleil que tu ne trouves pas chez la boulangère?
Le lever de soleil, en fait, c'est que tu es tout seul quasiment toute la nuit. Puis là, tu as la lumière qui arrive, tu ne penses plus au sommeil. La température qui se réchauffe un petit peu, ouais, donc c'est que des sentiments agréables. Et puis après, au niveau de la boulangerie, c'est un petit peu pareil. Ouais. T'es content de voir du monde, de discuter, simplement voir des personnes. Ouais, parce que quand t'es pendant 8-10 heures là, toute la nuit sur ton vélo tout seul, t'es content quand même d'échanger. Et puis ouais, surtout de manger aussi des bons trucs, des petits trucs chauds dès le matin. Le premier café, ouais, il fait vraiment du bien aussi. En fait, c'est tout simple, mais c'est comme ça.
Donc ça correspond à la personnalité de Clément Clisson, des plaisirs simples pour Clément, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et à quoi tu penses, Lani? Tu as des petits rituels pour te maintenir éveillé? Tu chantes, tu comptes les arbres, les vaches? Si tu en aperçois, tu fais quoi la nuit?
Oh, j'essaye pas mal de techniques. Bon, le principal objectif, c'est de lutter contre le sommeil. Donc, j'ai essayé les chewing-gums, j'ai essayé de mettre du café en poudre dans des pommes potes. Il y a pas mal de trucs.
C'est dégueulasse.
Ça passe, faut beaucoup de miel.
D'accord.
Et après, ouais, de chanter, des fois, je passe à... Je pousse un gros cri tout seul pour me réveiller un petit peu. Enfin, le truc le plus banal, c'est de la musique dans les oreilles. Mmh. Enfin, c'est, Ouais, j'essaye de m'occuper l'esprit un petit peu. Puis bah, après, ouais, c'est que c'est vite limité. On peut appeler quelqu'un, par exemple, jusqu'à 22, 23 heures, discuter un petit peu, mais bon, on va pas faire sonner le téléphone de la famille ou des amis à 3 heures du match. Je pense que c'est pas top.
Et là, tu me disais que tu t'étais mis un objectif un petit peu ambitieux pour cette année sur la rave, d'une heure et demie par nuit, qui a été un petit peu difficile à tenir. Comment tu vas t'y prendre justement pour atteindre cet objectif et progresser un petit peu dans ce sens-là? Parce que même si tu vas réussir à progresser à vélo, tu vas aller un petit peu plus vite, etc., tu vas changer de roue, tu vas pas gagner non plus 70 watts, à moins que tu aies des méthodes que je connaisse pas. Bon, je les connais, mais en tout cas, je les déconseille. Comment tu vas faire justement pour gagner ce temps du côté du sommeil? Comment tu vas t'y prendre pour bosser le manque de sommeil?
Bah, essayer de travailler bah, comme la sortie là, que j'ai décrit, celle de rouler de nuit après une bonne semaine de travail. Après, peut-être pas forcément enchaîner avec la sortie club, peut-être faire vraiment que la nuit pour limiter la fatigue globale et pour vraiment travailler spécifiquement ce point-là. Et après, ouais, essayer de trouver, je sais pas si avec au niveau de l'alimentation, si certains aliments permettent de travailler là-dessus, tout en restant sur des choses bien sûr naturelles, hein, complètement naturelles.
Les
Je
hamburgers,
sais
apparemment, ça empêche de dormir.
pas. C'est pas terrible. Et en restant ouais, sur des sticks de café, sur des. Enfin, je sais pas, il y avait les chewing-gums. Je sais pas, après, je connais pas assez là-dedans, mais je vais dire une connerie. Ça se trouve, les bananes, ça permet de limiter le sommeil. Enfin, c'est sans doute complètement faux, mais il y a sûrement quelque chose là-dedans ouais, qui va permettre ouais, de pousser un petit peu cet effet-là. Puis après, il y a aussi le fait de prendre de l'expérience. Je pense que ça va être le principal facteur qui me fera prendre de l'expérience et un petit peu d'âge. Parce que vers 30 ans, on est un petit peu moins, peut-être un petit peu plus résistant à 30, 35 ans qu'à 20, 23 ans.
T'as quel âge déjà? On
23.
rigole un petit peu tous là. On soit en train de nous étrangler en écoutant Clément Clisson. T'as 23 ans, petit enfoiré? Enfin.
C'est beau.
Et sérieusement, ça te fait quoi quand t'entends Omar dire putain, il a 23 ans, moi j'en ai plus de 40 et lui il va faire mal à l'avenir et il a eu du mal à te faire sauter la tronche. Ça te fait quoi, sérieusement? Indépendamment du fait que tu sois humble, modeste et tout, franchement.
Ça fait plaisir, hein. Ça fait toujours. Ouais, c'est surtout ça, ouais, ça fait plaisir. Et surtout, ouais, le plus important, c'est que ça encourage à persévérer, à continuer, à faire d'autres courses, peut-être encore un peu plus longues, avec encore un peu plus de concurrence en termes de densité. Mais ça pousse à pousser un petit peu plus loin.
Ça te manque un petit peu des épreuves avec une vraie grosse densité, avec 3-4 homards au départ?
Alors, je sais pas, j'en ai, on va dire, j'en ai, on va dire que j'en ai jamais fait, comme on peut voir par exemple sur la Transpyrénéenne cette année avec Ulrich, il y avait Sofiane, Omar. Ouais, enfin, ça m'intéresse, hein. C'est pour ça que je m'entraîne et que je continue pour essayer de me bagarrer un petit peu avec des gars comme ça. Et puis, ça peut être ouais, un super challenge. Ouais.
Pourquoi t'es pas allé? Pourquoi avoir privilégié le biking man alors que t'aurais pu aller te taper la toux volcano?
Bah parce qu'il n'y avait plus de place, enfin, il n'y avait plus de place, et puis après, au niveau du transport, c'était un petit peu plus compliqué.
Ça y est, tu t'es fait virer du magasin?
Non, non,
Après avoir oublié l'anniversaire de ton patron, ça y est, t'as dit t'embarques l'ordinateur, tu te casses?
j'ai plus de batterie, excuse-moi.
Pardon.
Hop. Ah oui, ça m'aurait bien intéressé, mais je me sentais pas suffisamment prêt. Je pense que pour aller affronter comme ça des gars, faut être au top, quoi. Ça se fait pas. Je pense que partir du jour au lendemain, comme j'aurais pu le faire sur le bike in man, ouais, c'est. J'aurais pas fait grand-chose là-bas. Ouais.
Donc, tu as l'impression d'être encore dans une zone de confort sur un bike in man où, entre guillemets, tu peux y aller en slip, prendre le départ, passer une première journée tranquille et puis malgré tout gagner. Ça aurait pas été le cas sur une épreuve plus avec plus de densité. Sachant qu'Omar et Ulrich ont abandonné, donc.
Ouais. Après, je dirais pas ça comme ça parce que, enfin, mine de rien, Laurent avait une très très belle avance, ouais, sûrement au niveau du bike in man. Donc, non, je dirais pas du tout ça comme ça. Et c'est vrai, ouais, c'est surtout la densité après qui est hyper hyper motivante. Et non, ouais, on peut. C'est dur de dire que ouais qu'on peut préparer un 1000 km comme ça en y allant dans les mains dans les poches. Ouais, c'est pas tout à fait le cas. J'avais vraiment toute la saison, tous les entraînements derrière, et ouais, j'avais quand même une grosse préparation, même si c'était pas spécifiquement pour cette épreuve. J'ai une grosse préparation déjà dans les jambes et dans la tête, ouais.
Il me semble que peu de temps après, bah finalement, cet été, si j'ai bien vu, tu as accompagné ta sœur sur son premier 300 km, c'est ça?
Oui, c'est ça. Là, c'était fin. Ouais, courant septembre. Ouais. Courant septembre. On a fait ça. Attends, deux petits.
Mais qu'est-ce que tu fais?
Excusez-moi.
Mais qu'est-ce que. Toi, c'est vraiment le genre d'épisode où je suis content d'avoir la vidéo parce que j'ai un gros plan sur tes aisselles là. Et je me dis que on n'a pas toujours l'occasion de voir les aisselles de Clément Clisson. Mais le mec est fort parce que tout à l'heure, il nous a fait la pub de Cube. Là, il nous fait une contre sur un gravel.
Même pas fait exprès.
Sur un autre Cube. Bon, qui a l'air quand même d'être un gros cyclocross reconditionné comme la plupart des marques savent si bien le faire. Tu diras bonjour à tous les commerciaux de ma part.
Ouais.
Donc alors, ta sœur?
Oui, ma sœur.
Comment elle va?
Elle est encore, je crois qu'elle va finir encore plus folle que moi.
Pourquoi?
Parce que à part tous les week-ends, elle fait des enfin, à part pour faire des 200 bornes, des trucs comme ça, enfin, elle en veut tout le temps et. Et toute seule, ouais, avec pas mal de dénivelé, donc ça c'est cool.
Bah, elle a quel âge?
Elle a 21. Ouais, 21, on a 2 ans d'écart. Non, et puis ouais, elle a chopé le virus.
Bah, il est temps de vous soigner chez les Clisson là. Hein. Monique, si tu m'entends, tu y vas tout de suite, tu leur files des petites pilules rouges. Parce que là, ça va pas du tout. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ta sœur avec tous ces kilomètres?
Ouais, je sais pas, on réfléchit, ouais, pour l'année prochaine, pour essayer de faire soit une course ensemble, soit un beau périple, mais ouais, peut-être un bike in man en duo, ou quelque chose comme ça, parce que le bike in man, c'est vraiment des super épreuves, en fait, en termes de parcours, d'ambiance, c'est génial, donc, puis un format 1000 km, je pense qu'elle est largement capable en prenant, on va dire en prenant le temps de dormir et de manger comme beaucoup de personnes. Ça peut être ça peut être un beau petit challenge sympa pour l'année prochaine.
Et tu crois qu'elle pourrait venir titiller un petit peu les premières style Nathalie?
Je sais pas.
En dormant un petit peu moins, tu crois qu'elle pourrait venir chauffer un peu la baillon?
Peut-être, c'est tout ce que je lui souhaite, ouais.
Mais elle en a envie ou pas?
Ah bah, je pense oui, sinon on ne serait pas à faire des bornes comme ça, même en vélo taf toute l'année, ouais, elle est vraiment motivée.
Il va falloir que je fasse un épisode avec elle. Avoir, tu sais, une interview avant la naissance d'une étoile, histoire de pouvoir frimer. Ouais, je le savais avant tout le monde. Mais alors, oui, vas-y.
Non, vas-y, j'écoute.
L'année prochaine, tu fais quoi? Parce que c'est bien beau, là, on rigole, le gravel, le machin, faire un truc en duo avec ta sœur. Mais Clément Clisson, t'as forcément un truc qui te titille.
Alors,
t'as forcément un truc.
Ouais, mais là, c'est, je suis en plein doute, là. Enfin, en plein doute, en pleine réflexion, là, pour l'année prochaine. Il y a deux courses qui me tentent vraiment. Et, enfin, on va dire deux grosses courses au format 2000-2005. C'est, il y a la SweepX. Donc, ça, c'est, qui m'a l'air vraiment sympa, en fait, parce que, bon, au niveau des paysages, tout ça, ça traverse vraiment toutes les Alpes. C'est vraiment un format, on va dire, typé aventure. Donc, avec rien à gagner, t'as rien au checkpoint, t'as juste trois points à relier. Et en plus, c'est, on veut dire, européen, quoi. Donc, il y a des Allemands, Anglais, Italiens. Ça peut être sympa. Et ça pourrait être un beau challenge à faire. Et après, il y a encore la RAF qui, cette année, change de sens et en sens inverse. Et avec, ouais, en termes de densité de concurrence, ouais, on monte de plus en plus. Et ouais, le fait que ça soit en sens inverse, ça aurait été dans le même sens, c'est sûr que non. Je l'aurais pas refait. Mais là, ouais, ça me met un petit peu le doute.
Qu'est-ce que ça change?
Ah bah, la course va être complètement différente. On peut avoir quelqu'un qui roule très fort sur le plat, qui dort. Qui est capable de dormir très peu, on va dire, ouais, sur des terrains plats comme ça, type un petit peu Paris-Brest-Paris, parce qu'en gros, c'est ça, et qui peut avoir, on va dire, je sais pas, peut-être 4-5 heures d'avance au pied des Alpes, et ouais, ça peut changer pas mal de choses. Moi qui suis plutôt grimpeur, ouais, ça peut être un beau challenge aussi.
Donc tu viens vraiment avec un esprit revanchard. Tu te dis là cette année.
Ouais, c'est ça. Il y a la
si
revanche.
Si ça se termine par de la grimpette.
Ouais, c'est ça.
Et ça veut dire qu'il est l'heure d'ouvrir le magasin là.
Ouais. Ah, t'as vu la lumière.
Non, c'est pas ça. C'est que je te vois regarder sur les côtés, genre. Donnez-moi encore un instant. Bon, j'ai encore deux questions. Et après, je te laisse partir. Et de toute façon, si c'est plus court, dis-toi bien que c'est de ta faute. Hein. Si t'étais capable de rentrer un mot de passe dans un ordinateur et d'installer Chrome, on n'en serait pas là. Mais bon, globalement, on s'en est bien sorti. Clément, pourquoi tu continues perpétuellement à te foutre de moi en me disant que t'as pas confiance en toi?
Bah, ça arrive petit à petit quand même. Ça arrive petit à petit en enchaînant les résultats. Ça vient petit à petit, ouais, la confiance.
Et t'as pas l'impression d'en avoir fait suffisamment assez pour te dire ouais, ok, ça va. Sans pour autant frimer, sans pour autant fanfaronner. Mais t'as pas l'impression d'en avoir fait suffisamment et d'avoir suffisamment la reconnaissance de tes pairs pour te dire ouais ok, peut-être que finalement je suis pas si mauvais que ça et que globalement ça va.
Si, je pense, enfin, honnêtement si, je pense j'ai déjà fait pas mal, mais il reste quelques gros trucs à faire.
Comme quoi?
T'as la TCR, ouais, c'est un gros morceau avec. Avec pour ce coup-là, ouais, vraiment une part d'aventure qui sera encore plus grande, dans des pays que je connais pas du tout. Et là, ouais, là, je pense que j'ai encore tout à prouver là-dessus. Même si je roule quand même, on va dire plutôt fort, j'arrive à dormir assez peu. Mais quand tu te retrouves en Hongrie ou je sais pas où, en Roumanie, ouais, c'est un petit peu, ça prend une autre tournure la course. Donc là, ouais, j'ai encore des choses à prouver. Et puis après, c'est pas forcément d'être trop confiant sur ce type de course. Parce qu'il peut y avoir tellement de choses. Donc,
t'as quoi à prouver?
Faut mieux avoir un petit peu peur que être trop confiant.
T'as quoi à prouver et à qui?
Bah, moi-même, déjà. Je sais que tu m'as déjà posé la question.
Ah ouais, non, mais attends, tu sais que je te cherche hein, quand même. Hein. On se connaît maintenant, donc.
Mais j'ai pas trouvé la réponse. Ouais, mais c'est surtout oui aussi à mes parents, tout ça. Enfin, ouais, je sais même pas des fois pourquoi je fais ça. Mais oui, t'as un petit peu de reconnaissance. Enfin, il y a, ouais, c'est un ensemble de choses.
Bon, Clément, je vais te laisser. Allez, tu vas aller au travail. Non, j'ai une dernière question. J'avais oublié de te la sortir, celle-là. Ouais. Tout à l'heure, tu m'as dit j'ai 23 ans et c'est à vers 30 ans. Que vraiment on est le plus résistant, etc. Bon, on pourrait en parler des heures, mais globalement, tu t'as tenté 30 ans pour être super performant et bénéficier de la vieillesse. Ça fait pas long pour toi de te dire faut que j'attende encore 7 ans avant d'atteindre un vrai gros niveau de bâtard et d'être résistant. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 7 années-là ?
Oh non, non, je vais pas attendre. Je vais tout continuer à m'entraîner et essayer ouais, d'être de plus en plus fort, plus en plus résistant pour être vraiment prêt à batailler quand il y aura vraiment des grosses batailles, je pense, dans 5-6 ans, si ça continue dans cette lancée-là, l'ultracyclisme, j'aimerais bien toujours être présent, même si je sais que ça va être de plus en plus dur, parce qu'il y aura des mecs de plus en plus costauds, mais je vais travailler dans le sens pour toujours être présent pour jouer les premières places. Et je vais pas me tourner les pouces pour attendre la trentaine et me dire c'est bon, là je vais être un petit peu plus résistant. Non, ça va pas se passer comme ça.
Bon, je pourrais te dire, si tu pouvais dire un mot à Steven, à Omar, à Sofiane, à tous, mais en fait ils écoutent, donc laisse tomber. Qu'est-ce que tu leur dirais là maintenant? Oui, tiens, pendant que tu réfléchis, je vais vous balancer un scoop. La semaine prochaine, je fais un épisode avec Gauthier Bonnecarrère, qui fait 4 sur la Tout Volcano. Voilà.
Bah déjà, je vais dire, alors déjà, que je les admire, parce que c'est une vraie source de motivation. Et ensuite, que j'ai hâte de les voir de plus près pour faire une belle bataille et pour me mettre minable.
Bon. Je vais rester dans ma tradition parce que là j'ai une véritable envie de pisser dramatique, donc je te laisse pour ta minute de solitude. Clément, écoute-moi bien. Là je pars, tu fais ta minute de solitude, tu connais le principe vu que tu écoutes tous les épisodes. Quand tu as fini, tu ne touches à rien, tu laisses ton ordinateur ouvert, tu laisses le navigateur ouvert et voilà. D'accord, je m'occupe du reste. Ça roule ?
Ok.
Et je t'envoie un message quand c'est ok.
D'accord.
Gros bisous, merci.
Merci.
Attends, je coupe ça.
Là, bah oui, bah, donc bah, merci à toi, Richard, pour ce petit moment. Et puis, tout simplement, n'hésitez pas, faut y aller. Il y a pas grand chose à craindre si ce n'est d'apprendre et de grandir. Voilà, à plus.